11h05, toujours en ce jeudi matin. Dans les prochaines minutes, notre chef préféré, Dany Saint-Pierre, sera avec nous pour nous donner ses conseils culinaires. Mais tout d'abord, dans cette prochaine demi-heure, je pense qu'on va avoir vraiment une très, très belle discussion qui est déjà entamée avec notre invité, Bruno Guglielminetti. On peut les voir partout. Sur les réseaux sociaux. Vous allez sur Instagram, là, ouvrez votre compte. Là. Ben, là, j'espère que vous êtes en voiture. On parlait de cellulaire au volant tantôt, là, si vous êtes à la maison. Allez sur votre compte Instagram et là, je suis convaincue que vous allez voir des influenceurs. Le mot influenceur. Et moi, je me suis souvent demandé, oui, mais un influenceur, ça influence qui au juste? Est-ce que ça influence vraiment? Est-ce que ça a un impact sur les achats? C'est-à-dire que si moi, là, Catherine Brisson, il y a un influenceur que je suis, que j'aime, qui me propose, je sais pas moi, une montre ou n'importe quoi avec un beau petit visage, puis toujours une petite façon de se placer quand tu vas à une montre, de toute façon, là. Est-ce que moi, je vais avoir vraiment envie de l'acheter? Est-ce qu'il y a des gens même qui ça influence vraiment? Moi, c'est la question que je me demande. Puis j'en ai vu beaucoup la fin de semaine dernière parce qu'il y avait eu un... petite controverse avec le festival Oceaga où il y avait quand même énormément d'influenceurs. Puis on se disait, coudonc, c'est-tu le festival influence, hashtag quelque chose ou c'est un festival de musique? C'est ce que plusieurs se sont demandé. Bruno, merci d'être là. Mm-hmm. Consultant en communication numérique et animateur du podcast d'actualité numérique Mon Carnet, que je suis à chaque fois. La définition d'un influenceur, là, pour ceux qui connaissent peut-être un petit peu moins ça, c'est quoi?
Simplement, on pourrait dire que c'est une personnalité du web. Qui est présent sur les réseaux sociaux et les utilise pour publier. Maintenant, ce qu'il publie, chacun publie ce qu'il veut, là.
Ouais.
Mais essentiellement, c'est ça. Mais l'influenceur pur, là, que je dirais natif de l'Internet, c'est vraiment quelqu'un qui n'a de présence dans la stratosphère médiatique que sur Internet. Ça, c'est vraiment l'influenceur pur. Puis à côté de ça, bien évidemment, il y a des personnalités médiatiques qui sont aussi présentes sur Internet et qui ont d'abord leur véhicule, c'est les médias. Ça peut, on en trouve beaucoup dans le monde de la radio,
oui,
de la télévision, et qui profitent de leurs différentes présences sur Internet pour parler de produits qui nécessairement, dont ils ne vont pas nécessairement parler à l'antenne. Ça va être quelquefois des choses qu'ils aiment. Ça va être quelquefois du placement publicitaire. Et puis, quelquefois, ce sera des invitations qu'ils ont reçues. Ils sont des fois mal à l'aise, des fois pas, d'en parler en ondes, mais ils vont en parler sans crainte sur les réseaux sociaux.
Mais dans le fond, l'influenceur, c'est pas mal l'animateur qu'on avait à une certaine époque qui annonçait en ondes, « Hey, je suis allé manger à un restaurant de mon ami. » On nommera pas de nom, mais c'est une façon de faire qui était très commune aussi ou à la télévision aussi.
Ben, dans les années 70-80, c'était la mode. Maintenant, et puis parce que l'Internet n'existait pas. Mais aujourd'hui,
non, oui,
tous ces gens-là se servent beaucoup plus de l'Internet pour mentionner les endroits où ils vont, les endroits où ils sont invités, en disant oui ou non s'ils ont été invités, mais pour parler des endroits qu'ils trouvent intéressants.
Mais est-ce que ça fonctionne? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a vraiment une clientèle de gens qui, parce que mon influenceur, ou je ne sais pas moi, Alanis, ancienne candidate d'Occupation double, va manger chez Giovanni Patate, moi, je vais aller manger chez Giovanni Patate?
Ben oui, ça a une influence. Est-ce que c'est l'influence que les entreprises voudraient qu'elles aient quand elles leur donnent des contrats pour donner de la visibilité à leurs produits? Probablement pas autant que ça, mais ils ont quand même de l'influence. Ils ont de l'influence dans le bon sens parce qu'il y a des compagnies qui arrivent à vendre des produits, mm-hmm, ou du moins à les faire connaître. Parce que c'est beaucoup de la notoriété qu'on va chercher. Hein. Rares sont les influenceurs où il y a un clic à côté, tu cliques puis t'achètes. Là. Ils vont d'abord présenter le produit puis ils vont dire qu'ils aiment vraiment ça, que c'est vraiment bon. Puis regardez comment ça va bien sur mon poignet ou dans mon cou, ou regardez la paire de pantalons que j'ai acheté. Waouh, j'ai jamais eu des pantalons comme ça. Alors, ça fait du positionnement pour un produit. C'est ce que la marque veut. Auparavant, c'était peut-être plus facile d'avoir de la visibilité pour des produits comme ça dans des magazines. Il y avait probablement plus de chroniques beauté à la télévision ou mode beauté. Moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, de voir des défilés de mode à la télé.
Oui, c'est vrai.
On voit plus ça nulle part. Pourquoi? Parce que maintenant, ça se fait sur Internet. Alors, on refait la même chose de façon plus moderne et sur... principalement les réseaux sociaux.
Mais c'est beaucoup basé sur l'image et la beauté.
Oui.
Franchement, puis on va être très honnête, des influenceurs, là, j'en ai pas vu là, qui se mettraient un sac de papier là, pour prendre des photos, là, parce qu'honnêtement, ils sont magnifiques pour la plupart. Il y en a, on dit, oh, j'assume mon corps, mais je paye 120 livres. T'sais, à un moment donné, c'est facile à assumer.
Oui, c'est pas mal plus facile que la plupart du monde.
Oui.
Mais oui, effectivement, c'est des gens puis de toute façon, si vous avez eu l'occasion à un moment donné de voir des photos avant et après, là, c'est un influenceur qui se met en scène, c'est la plupart des cas, c'est ce qui arrive. Il y a des gens qui s'amusent, d'ailleurs, quand il y a des événements comme Oceaga, mais plus à l'étranger, pour essayer de prendre, pas en défaut, mais le making-of d'une photo photo chez des influenceurs. Puis ça, c'est toujours amusant de voir la vidéo. Puis comment ça leur prend du temps pour s'installer, puis arriver, non, OK, j'aime pas ma photo, je la reprends, puis non. Ça peut durer 15 minutes pour arriver à envoyer la photo qui avait l'air tellement naturelle et prise sur le moment. Mais c'est ça, mais c'est du spectacle, c'est du marketing, c'est de la vente. Et ces gens-là, puis il faut faire la part des choses. Il y en a qui sont très, très honnêtes dans leur démarche. Oui. Puis il y en a d'autres qui vivent de ça. C'est une business. Puis ils essaient de faire la part des choses. Puis il y en a d'autres qui c'est vraiment juste une business. Puis c'est du placement de publicitaire. Puis ils ont, dans certains cas, des centaines de milliers. Il y en a qui ont des millions. Mais dans la grande majorité des influenceurs qui sont aujourd'hui sur l'Internet et pour qui les marques trouvent un intérêt, ça va être les micro et les nano-influenceurs. Eux autres ont moins d'abonnés, sauf qu'ils sont vraiment pertinents dans leur domaine.
Bon, OK, on va juste expliquer un peu micro-nano-influenceurs, ceux qui ont des millions d'abonnés. Micro et nano, donc, tu as combien à peu près d'abonnés là, sur Instagram? Parce que c'est surtout Instagram. On dit Facebook un peu moins.
Oui, quand même. Mais ça peut tourner autour du... Il y en a que c'est 1000, mais ils sont hyper pertinents. Il y en a que c'est 5000.
Okay.
Il y en a que c'est 10 000. Mais l'idée là-dedans, moi, je dirais qu'autour de 5 000, ça peut être intéressant parce que c'est un marché. Et l'idée là-dedans, pour un annonceur ou une marque qui va rencontrer un influenceur ou qui espère d'influencer un influenceur pour que lui influence son monde, et il va se dire, bon, ben si cette personne-là aime mon produit... l'essai, puis en dit des bons mots, bien, il va en parler. Et puis les gens qui vont le voir vont être influencés. Et les gens qui le suivent s'intéressent à ce qu'il fait. C'est vrai du côté de la beauté, c'est vrai du côté des vêtements, c'est vrai du côté de l'électronique, des musiciens qui suivent d'autres musiciens.
Oui, la cuisine aussi.
Oui, la cuisine. Et donc, c'est ça, ce sont tous des domaines où on essaie d'influencer. Puis il y a eu une époque, on joue toujours entre la ligne médiatique puis la ligne Internet. Il y a eu une époque où il y avait des chroniqueurs pour tous les sujets. Et c'est comme s'il y a une nouvelle génération de chroniqueurs qui sont arrivés. Et eux, ce sont dans certains cas, ce sont de vrais experts dans leur domaine, mais ils n'ont pas de débouchés dans les médias traditionnels parce qu'il y a déjà des chroniqueurs. Bien, ils se font leur place sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, quand je rencontre, chaque année, là, je fais le tour des universités, des étudiants en journalisme, puis je leur dis, vous avez tout ce que vous avez de besoin dans votre téléphone. Vous avez un studio de production, vous avez un enregistreur, vous avez une caméra vidéo, vous avez un appareil photo, vous avez un truc pour écrire du texte. Vous pouvez le faire, votre média. Vous pouvez être vous-même votre média. Puis à partir de là, ben, vous concentrer dans un domaine et développer votre expertise.
Mais c'est ce qu'on a vu aussi avec les créateurs de contenu pour YouTube.
Ben
où là, on avait vraiment... Puis c'était pas juste des choses bizarroïdes ou des défis un peu niaiseux ou des jeux vidéo. Au contraire, il y avait des gens qui avaient... Puis il y en a encore beaucoup, moi, que je suis à chaque semaine. C'est comme des petites émissions. Donc, ils ont créé leur métier il y a plusieurs années.
Moi, je dirais que ça a commencé avec les blogueurs. Autour de 2000, quand le blog est arrivé, à défaut d'avoir la bande passante qui allait vite, le texte, ça allait quand même pas pire.
Tu voyais le texte qui arrivait.
Ça prenait du temps. Ça prenait le temps d'un café, puis le texte était là. Mais bon, il y avait le blog qui était là, la photo est arrivée avec ça. Après, il y a eu justement YouTube qui a révolutionné le genre, où on a vu des YouTubers, des vedettes apparaître, des gens qui étaient très... Il y avait des généralistes, on s'entend, mais il y avait aussi des gens qui étaient très spécialisés, comme tu le disais, particulièrement dans le domaine du jeu. Tu sais, il y a des gens là qui font... une fortune. C'est une minorité, on s'entend, mais il y a des gens qui font une fortune avec ça.
Une fortune, mais c'est vrai que c'est une minorité quand même, mais il y avait du contenu.
Oui.
C'est-à-dire qu'il y avait un travail derrière, il y avait quand même des informations.
Il y avait une expertise, oui.
J'ai l'impression, et là, c'est une impression, puis on va en parler d'ailleurs avec une influenceuse personnalité après la pause, Valérie Roberts, que là, on est moins dans le contenu qu'on est plus dans le paraître et que j'ai pas besoin d'avoir un talent pour devenir influenceuse. Donc, n'importe qui, demain matin, qui a juste une jolie bouille, des belles petites dents blanches, pourrait devenir influenceur.
Mais ça, au Québec, c'est apparu, et c'est dommage, on encore leur taper sur la tête, c'est arrivé avec la télé-réalité.
Ouais.
C'est-à-dire que c'est des gens qui allaient là, qui n'avaient pas nécessairement de qualifications particulières, mais ils existaient puis ils étaient beaux. Ou il y avait un méchant caractère. Et on les retrouvait là. Et puis, ils ont réussi à faire de la télé sur un scénario qui était appliqué, puis il y avait une équipe qui était autour pour les diriger. Et ça a donné ce que ça a donné. Et les jeunes qui regardaient ça à la maison, ils disaient, ben ouais, mais moi, je suis capable de faire ça. Aller m'asseoir sur un divan puis bitcher sur l'autre. Capable de le faire. Et puis, ils sont tombés dans leur chambre, puis le lendemain, ils ont allumé leur caméra, peu importe sur l'appareil électronique de leur choix, puis ils se sont mis à parler. Et pour dire quoi? Ben pour parler de rien, pour parler de leur quotidien. Puis ça a marché. Il y a une clientèle pour ça. Ça fait appel au voyeurisme, d'une part, mais ça fait aussi, c'est une compagnie, hein? Puis on a l'impression d'avoir un ami virtuel. C'est un rendez-vous, un peu comme la radio le fait. La radio le fait, c'est un rendez-vous. On parle à la tête, à l'intelligence de quelqu'un. Bien, la personne qui est à l'autre bout et qui s'adresse à toi parce qu'elle te regarde, parce qu'elle regarde la caméra, bien, elle s'adresse à toi. Là. Ils ne sont pas 24 sur un plateau en train d'essayer de faire des comics. Là. Ils sont à parler à toi, puis à se confesser, puis à dire ce qu'ils pensent. Et ça, ben, ça vient chercher une partie de quelque chose chez l'humain. On aime se faire raconter des histoires, puis ça, ben, c'est des histoires qui sont là.
Puis on a l'impression d'avoir une proximité plus grande aussi que ce que la télévision nous offrait aussi avant.
Puis on le voit tellement. Quand il y a des rendez-vous entre les influenceurs et leurs fans...
Ah, c'est fou! Ouais.
Non, mais...
Mais c'est surtout les jeunes, Bruno.
Oui, ben oui. Ouais. Oui, ben, puis je dirais, il faut faire attention. Quand on fait des rencontres de book club, c'est pas des jeunes qu'on voit là, c'est des gens dans la vingtaine, la trentaine qui vont voir leur auteur préféré. Bon, il y en a moins parce que c'est pas le même genre de phénomène, mais il y a un lien qui est là. Tu sais, quelqu'un qui est habitué de lire tous les livres de cet auteur-là, il y a un certain lien avec lui. Quand je vois Metropolis Blues à Montréal, puis que je vois les gens, il y a une cinquantaine, une centaine, des fois 500 personnes dans une salle qui viennent voir un auteur, ils ont une connexion avec cet auteur-là. Bien là, on applique ça dans une jeune autre génération qui, eux, utilisent les réseaux sociaux pour se divertir.
Donc, on va demander aux auditeurs, est-ce qu'ils sont vraiment divertis? Est-ce que ça a un impact, d'ailleurs, dans leur consommation? Peut-être les influenceurs. C'est peut-être toi puis moi, on est rendu vieux. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que les influenceurs du web ont vraiment du pouvoir? 514-790-9850. De partout au Québec, sans frais, c'est le 1-866-790-9850. Est-ce que les influenceurs du web ont-ils du pouvoir? Quand je dis du pouvoir, là, entendons-nous, est-ce que c'est un pouvoir d'achat? Est-ce que vous êtes influencé justement par eux? 514-790-9850, 1-866-790-9850. Avec nous, Valérie Roberts, qui est... Est-ce que je peux t'appeler influenceuse personnalité, Valérie?
Ah, je le sais pas trop. On dirait à chaque fois que je me fais appeler influenceur, je suis comme oui, mais en même temps, c'est plus. Tu sais, moi, dans le fond, les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux, c'est principalement parce qu'ils m'ont entendu à la radio ou qu'ils m'ont vu à la télévision. Puis parce que j'en ai beaucoup, c'est comme si on me place automatiquement dans la catégorie des influenceurs. Fait, est-ce que je le suis? Oui. Est-ce que je mets en même temps? Non. Je sais pas trop.
Mais est-ce que tu utilises les réseaux sociaux, Instagram, et des compagnies qui t'appellent pour vendre un produit ou vendre un événement, ou plutôt, toi, c'est pour te faire peut-être une plus grande popularité, là?
Mais tu vois, moi, ce que j'aimais beaucoup des réseaux sociaux lors de leur apparition, mettons, il y a une dizaine d'années, là, on pense à Facebook, il y a à peu près 10 ans, ce que je trouvais chouette, c'était que ça te permettait d'être plus près de la personnalité que tu aimes. Fait que je pense à moi qui adore la musique, mais je me retrouvais à pouvoir suivre des formations musicales comme Coldplay, mettons, sur Internet. Puis là, on partageait des vidéos exclusives, puis j'avais l'impression d'être plus près de leur quotidien ou plus près de ce que je voulais être, de mes artistes favoris. Puis avec le temps, évidemment, ça a évolué. Puis là, les gens qui font du marketing, de la vente, ont réalisé, ah ben tabarouette, si je m'associe à telle personnalité, mais peut-être que mon produit va passer davantage que si j'achète une publicité à la télévision, puis que c'est moins centré, c'est moins niché, je sais moins qui je vais aller rejoindre, tu sais. Fait que si tu me poses la question par rapport à moi, moi, personnellement, j'utilise les réseaux sociaux pour partager ma vie, pour partager mon quotidien, pour partager mes voyages, pour partager les projets sur lesquels je travaille. Puis je tente de faire le moins possible de partenariats commerciaux pour faire de la publicité parce que j'en ai fait beaucoup au début quand c'est apparu, puis j'ai réalisé finalement que c'est quelque chose qui ne me plaisait pas, puis j'ai réalisé que c'est quelque chose aussi qui semblait déplaire à mes abonnés. Fait que moi, j'aime mieux y aller avec quelque chose de plus organique, quitte à avoir un fil Instagram qui est pas uniforme, beau et léché, ben ça ressemble à ma vraie vie. T'sais, c'est pas uniforme, beau et léché, c'est un peu n'importe quoi.
mais Valérie, qu'est-ce que t'aimais pas justement dans le fait d'être associé avec un produit ou d'avoir, parce qu'on va s'entendre, quand une compagnie t'approche pour vendre un produit X, évidemment, c'est une entente, c'est un contrat, tu vas avoir une rétribution pour tant de commentaires sur une photo, c'est tant de dollars. Qu'est-ce qui, toi, te plaisait pas là-dedans?
Moi, ce que j'ai pas aimé, c'est qu'au début, surtout, je pense qu'avec le temps, ça s'est amélioré, puis ceux qui en font plus de publicité désormais pourront me le dire, là. Mais je trouve qu'au début, les gens du marketing mettaient beaucoup de l'avant des mots. c'est des mots-clés, c'est-à-dire que tu vends un yogourt, parfait, ben ce yogourt-là, pourquoi tu le vends? Ben il est plus riche et onctueux. Mais si moi, dans mon vocabulaire, ça fonctionnait pas riche et onctueux sur mes réseaux sociaux, ben j'avais l'impression qu'à chaque fois, il manquait quelque chose de naturel, quelque chose d'organique. Fait que c'est ça qui m'a déplu le plus. Évidemment, on se mentira pas, c'est agréable de partager une photo puis de te dire, hey, en passant, on va te donner 500 $ pour partager cette photo-là. C'est quand même pas tant de travail pour avoir 500 $ dans tes poches. Mais au bout du compte, si à chaque fois j'ai l'impression de vendre une petite partie de mon âme, puis j'ai l'impression que les personnes qui me suivent se disent, mais voyons, c'est donc bien bizarre que tout à coup, elle partage une photo d'une compagnie qui vend des vêtements, puis je l'ai jamais vu porter ça ou ça lui ressemble pas du tout. Ben c'est là que ça vient nuire un peu à ce que moi je veux faire, c'est-à-dire être le plus authentique possible.
Ben tu viens de dire le mot authentique et je pense, Bruno, sur les réseaux sociaux, quand t'es pas authentique, les gens vont le sentir aussi. Puis c'est ça que ça peut nuire. Je pense qu'il y a certains influenceurs qui se nuisent à eux-mêmes en n'étant pas authentiques.
Ouais, ben justement, ben c'est un peu ce que Valérie dit, hein. C'est qu'à un moment donné, quand t'as l'impression de vendre un peu de toi, là, un peu de ton âme, c'est là où ça passe pas. Parce que les gens suivent les influenceurs parce qu'ils les aiment. Ils s'identifient à ces gens-là. Puis à un moment donné, ils commencent à les connaître. Hein, puis ils vont voir, il y a un tweet, il y a un post qui va sortir et ça ne sera pas vraiment eux. Puis j'aimais ça, l'exemple que Valérie donnait par rapport aux mots. Il y a du vocabulaire. Allez, aujourd'hui, la plupart des boîtes de marketing ont corrigé le tir, là, mais c'était tellement drôle parce que du vocabulaire qui n'était jamais utilisé par des influenceurs.
C'est
épouvantable. Et là, tu les entendais, tu disais, wow, il a appris un mot, lui, aujourd'hui, parce qu'il ne l'a jamais utilisé avant.
Mais Valérie,
c'est pas juste ça aussi, oui. Tu sais, il y avait aussi cet aspect de, tu dois prendre la photo avec l'objet, tu sais. Je reprends l'idée du yogourt parce que j'en ai tellement vu des mauvaises publicités avec des yogourts, je sais pas pourquoi, là, mais avis à ceux qui créent de la pub pour du yogourt, faites quelque chose, ça n'a pas de bon sens. Mais tu sais, tu vois quelqu'un qui marche sur la rue, qui est en train de manger une bouchée de yogourt, puis tout à coup, c'est pour ma vie active, je m'alimente avec telle sorte. Ben, voyons donc. Qui, dans la rue, de manière consciente, sauve un petit yogourt, puis avec une cuillère, va déguster ça en chemin vers son prochain événement? Personne. Ouais. Fait que c'est ça que des fois, je trouve qu'il n'y a aucun bon sens, c'est que c'est compliqué. Si tu le tournes pas à la blague, c'est compliqué de vendre quelque chose quand c'est pas organique. Puis c'est là que moi, je décroche. Puis je veux dire, moi, je suis peut-être ce qu'on appelle une influenceuse d'une certaine manière, mais moi, j'en consomme aussi du contenu sur Instagram. Puis si moi, je vois quelqu'un qui ne cesse de vendre des produits puis que je trouve que c'est pas organique, que je trouve que c'est pas authentique, je suis la première personne qui va me désabonner. Puis ça, je pense que c'est l'opposé de ce qui devrait se passer sur les réseaux sociaux.
Oui, exactement. Oui, Bruno.
Ouais, j'allais dire qu'aujourd'hui, les marketeurs ou les agences qui approchent les influenceurs vont regarder justement l'authenticité de la personne. Et c'est beaucoup plus rentable de faire affaire avec un Instagrammeur ou un YouTuber qui ne fait pas tellement de placements parce qu'il nourrit sa crédibilité et son authenticité auprès de ses abonnés, qu'à l'occasion qu'il y a un partenariat pour annoncer quelque chose, c'est beaucoup plus rentable et porteur pour une marque que quelqu'un qui, chaque semaine, a un nouveau produit. À un moment donné, ça devient une infopub.
Oui, mais Valérie, tu penses quoi justement des gens dans les festivals? Parce qu'on s'en est parlé beaucoup d'Oceaga, entre autres. Puis de montrer son kit d'Oceaga, ça fait partie maintenant de la culture du festival.
Ouais.
Mais j'ai trouvé qu'il y en avait particulièrement là, beaucoup. Là. Puis on parlait pas de musique ben là.
Oui, mais tu vois, il y a une réalité aussi qui est parallèle dans tout ça. À Oceaga, évidemment, c'est un gigantesque festival. Donc, les festivaliers payent leur bracelet pour avoir accès au spectacle. Tu vas manger sur le site, tu vas boire sur le site, ce qui fait en sorte qu'il y a des revenus, tu sais. Mais évidemment, quand tu appelles des très gros noms comme Childish Gambino, comme les Chemical Brothers, bien, ça se peut que ça coûte des centaines de milliers, voire un million de dollars à voir ces artistes-là. Fait qu'il faut des grands revenus, tu sais. Et comment on peut avoir des grands revenus? Bien, il y a des commanditaires avec qui on fait des partenariats, ce qu'on appelle des activations. Et donc, les gens vont aller là-bas, par exemple, tu vas prendre la gang d'Occupation Double, bien, ils ont tous passé par le petit espace du yogourt, entre autres. Là, je reviens toujours au tabarouette de yogourt, hein, mais il est tout le temps là, le yogourt. Fait que là, il allait se prendre en photo.
Il y avait une zone yogourt, faut dire.
Un très beau mur. Ouais. Exactement. Et là, on partageait ça sur Internet pour dire que l'espace de telle entreprise dans le camp de Oceaga est magnifique, allez vous prendre en photo. Ou encore, il y avait une espèce de bain là avec des fausses bulles, là, comme si c'était un bain moussant, qui était comme des balles de plastique. On a demandé à des influenceurs d'aller se prendre en photo là-dedans. Puis évidemment, tout ça moi, je comprends une certaine partie de la game d'une certaine manière, parce qu'il faut que chez AGA engendre des revenus pour me permettre à moi, amateur de musique, d'avoir des groupes exceptionnels où je vais pouvoir aller voir. T'sais. Fait que si ça fait partie du jeu, puis si les influenceurs doivent s'y rendre, eux, ils gagnent un peu d'argent en faisant de la promotion. Ces activations-là font en sorte que Oceaga et Evenco, par le fait même, a donc plus d'argent. Ben moi, je trouve ça... Allez-y, faites-le. Dans le fond, moi, ça va faire profiter mon intérêt personnel, ouais, qui est la fille qui veut aller voir des spectacles. Puis moi, je partage mes tenues parce que la mode m'intéresse énormément, mais ça me tente pas de participer aux activations. Puis je pense que c'est tout aussi légitime pour moi de ne pas le faire que c'est légitime pour un influenceur de le faire.
Ben merci beaucoup, Valérie, d'avoir pris le temps de démystifier un petit peu l'influence que tu peux avoir sur Instagram, sur les réseaux sociaux.
Ça me fait plaisir. Vous me suivez, là, Robert Duval.
Ah, ben regarde, je savais qu'elle allait quand même faire la petite
blague. Ben pourquoi pas? Je suis là, tu sais.
Ça t'a bien fait. Merci beaucoup, Valérie Roberts.
Bye-bye.
Qu'on peut entendre au 98.5, à puisqu'il faut se lever. Bruno, justement, est-ce que c'est un métier qui va perdurer dans le temps? Parce que là, on est en 2019. Il y a eu quelques petits anicroches dans la dernière année avec certains influenceurs. Puis je ne veux pas les nommer parce que je ne veux pas leur faire de la pub. Mais il reste que... Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas quelque chose qui va arriver puis que ça va casser?
J'ai pas l'impression, parce que c'est un canal qui s'est ouvert et à partir de ça, la télé va rester, ouais, la radio va rester, les YouTubers sont là. Peut-être qu'ils seront sur une autre plateforme à un moment donné, mais il va quand même rester des gens qui vont faire de la vidéo. Les gens qui aiment se prendre en photo vont continuer à le faire. Là, on le fait sur Instagram. Peut-être qu'on le fera sur une nouvelle plateforme un jour, encore un autre nom. Ce type de communication-là est là. Les plateformes changent. Mais le métier ou l'usage demeure. Hein. On fait juste les transporter d'une plateforme à l'autre. La preuve, c'est que des blogs, il y en a encore.
Oui.
Puis là, on voit l'émergence du podcast là, qui prend de la graine ici au Québec. Bon, ben c'est une bonne nouvelle.
Oui, puis ça commence. Là. Ben, oui. Ça fait longtemps aux États-Unis le podcast, mais ici au Québec, ça commence. J'ai reçu des courriels, notamment de Sarah. Elle dit, pour ma part, j'utilise les influenceurs comme outil pour choisir un certain produit, un petit peu comme on le ferait avec les commentaires sur Amazon ou TripAdvisor. Mais c'est pas une belle fille qui utilise tel produit qui va m'influencer. Donc ça, je pense que ça peut être intéressant également pour certaines personnes. Et on va prendre un appel, c'est Muriel, bonjour.
Oui, bonjour, ça va bien?
Bien, ça va Muriel, est-ce que vous êtes influencée par certains influenceurs? Ça fait bizarre à dire comme phrase, mais
absolument.
C'est un peu ça pareil.
Ben absolument, mais juste pour revenir à Valérie avec son yoga, moi c'est pâte à dents. Mon Dieu,
ah,
c'est
oui,
ce qu'ils vont inventer.
Vous avez raison, c'est vrai qu'on en voit.
Je sais plus, je trouve ça extraordinaire. C'est tellement... hilarant d'une façon, qu'est-ce qu'ils vont inventer pour essayer d'attirer encore des gens? Mais c'est juste une petite parenthèse là, concernant Valérie et son yoga. On va peut-être mettre la pâte à dents dans le yoga à un moment donné.
Peut-être, pourquoi pas? Une petite touche.
Oui, écoutez, au niveau des influenceurs, ce qui se passe, c'est que ça s'identifie. C'est des gens qui n'ont pas juste travaillé dans des livres, mais qui ont une expérience de vie par rapport à ce qu'ils pensent. Pas toutes, là, mais on est capable de s'identifier notre vie. Avec notre vie, on peut s'identifier, puis que ça nous touche vraiment nos besoins. Évidemment, tout le marketing est relié à un besoin ou à créer un besoin. Et les influenceurs, eux, ils vont cibler quelque chose. Ils ne peuvent pas toucher à tout, là, mais ils vont cibler un certain créneau de gens au niveau de la masse, mais qui répond à un besoin, puis ils sont comprenables. On est capable de les comprendre, on est capable d'appliquer ça dans ma vie. Moi, je regarde, moi, il y en a un en particulier, là, c'est hallucinant, là, jamais qu'on entend parler de ça, soit dans les journaux ou à la radio, puis hey, quand est-ce que j'encaisse mes REER, quand est-ce que je peux le faire, puis il est capable d'expliquer ça dans des mots tellement simples, là. On dirait qu'on est intelligent. Je connais rien d'un chiffre, OK?
Mais ça, au moins, ça mérite de donner de l'information. C'est pas juste un kit ou c'est pas juste je vais essayer de te vendre un produit. Au moins, il y a une petite information, Muriel, là-dessus.
Non, non. Et c'est une information qui est reliée à notre quotidien.
Oui.
OK? Entre autres, il s'appelle Daniel Pilon, là, le chroniqueur. Là. C'est hallucinant, lui-là. Tu sais, là, l'argent, là, c'est le nerf de guerre de tout le monde. On travaille pour aller s'acheter quelque chose au IGA, au travail pour aller s'acheter de la pâte à dents.
Fait que ça vient vous chercher plus particulièrement quand justement on parle d'argent. Merci beaucoup, Muriel, de votre commentaire. Puis effectivement, quand il y a du contenu là-dedans, je pense qu'il y a des gens qui adhèrent un petit peu plus que quand c'est seulement l'image qui vient nous chercher, Bruno.
Ben, c'est ça. C'est quand ils sont pertinents. Ouais. C'est là où ils vont aller chercher de la crédibilité et des abonnés.
Ben écoute, il va peut-être falloir que je commence à mettre des belles petites photos sur les réseaux sociaux, hein?
Non, je pense que tu pourras parler de contenu, puis ça irait bien.
Je pense que je vais rester comme ça. Je pense que je suis très bien, justement, dans mes non-photos sur les réseaux sociaux. Non, ça, j'en mets pas beaucoup. Merci infiniment, Bruno Guglielminetti, d'avoir été avec nous, consultant en communication numérique et animateur du podcast d'actualité numérique Mon Carnet. On parlait de podcast, Mon Carnet, un très bon également à s'abonner. Merci beaucoup, mon cher.
Merci de l'invitation, Catherine.